C'est Edouard Dupénoat pour l'Info africaine. Merci Edouard. On passe au journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
En football, Arsenal encore freiné.
34e journée de Première Ligue, 13e nul pour les Gunners, le 9e après avoir mené au score. Les joueurs de Mikel Arteta tenus en échec de partout par Crystal Palace et qui offrent ainsi quasiment le titre à Liverpool.
En Afrique, les différents groupes du prochain Afro-Basket féminin sont désormais connus.
Un championnat d'Afrique qui se jouera en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août. Les 12 pays qualifiés ont été répartis dans 4 poules de 3 au cours du tirage au sort auquel assistait Molamine Sissavané.
Honneur aux reines du basket africain par la voix d'une cantatrice pour démarrer la soirée du tirage.
Côte d'Ivoire, Égypte et Angola.
Ainsi formé le groupe A du pays hôte qui a fait bourdonner la salle. La joueuse ivoirienne Flora Ouraga préfère en sourire.
Mais en tout cas, on respecte vraiment ces équipes. Hein. Il n'y a pas de stress, en tout cas on se donnera à fond. Peu importe l'adversaire, la solidarité, la défense pourra nous envoyer loin.
Mali, Cameroun et South Sudan.
Quant à ce groupe B, le patron de la fédération malienne Jean-Claude Sidibé n'en a qu'une lecture. Son pays doit triompher après avoir été sur le podium 4 fois de suite.
Depuis 2017, le Mali est sur le podium. Maintenant, on aspire à gagner la Coupe. Et si on veut gagner la Coupe, il faut battre le Nigeria, il faut battre le Sénégal, il faut battre la Côte d'Ivoire. Notre équipe a gagné en maturité, Inch'Allah.
Sénégal, Uganda et Guinée.
Pour le petit poussé de la poule C et la Guinée, les ambitions sont à la hauteur des adversaires. Amara Babila Keïta, nouveau président de la fédération guinéenne.
L'avantage qu'on a, c'est qu'on vient comme un outsider. Aujourd'hui, personne ne connaît la configuration de l'équipe féminine de la Guinée. Nous allons tout mettre en œuvre pour que notre équipe parte le plus loin possible.
Le groupe D est composé du Mozambique, du Rwanda et surtout du Nigeria et ses reines du basket africain, vainqueurs des 4 dernières éditions de l'Afrobasket. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et puis au Bénin, Antoine, dernier préparatif avant le grand départ du Tour cycliste.
14 équipes venues de 13 pays différents sont attendues. Et en amont, le président de la Fédération béninoise de cyclisme a donné une conférence de presse de présentation. L'occasion pour Romuald Azoumé de revenir sur les innovations de cette édition 2025 et notamment l'organisation d'une épreuve handisport en parallèle du Grand Prix de Cotonou le dimanche 4 mai.
Nous faisons le tour de l'inclusion, c'est le fait pourri des handicapés. Pendant le Tour du Bénin, de les faire courir à la dernière étape pendant le Grand Prix. Il y a certains qui sont en tricycle et certains qui sont en fauteuil roulant. Nous aurons aussi une étape vers Niki où on n'est jamais allé. On est très heureux de pouvoir monter aussi à ce niveau-là. On introduit un Grand Prix féminin avant l'inscription de cette course au calendrier de l'Union Cycliste Internationale parce que nous n'avons fait courir que des filles sur la moitié du circuit du Grand Prix de la ville de Cotonou.
Romuald Azoumé avec Théophile Aza, le Tour du Bénin qui débutera donc lundi à Niki dans le nord-est du pays.
Enfin, au Niger, surprise à la Coupe du Président.
Une des compétitions majeures de la saison de lutte, le favori et septuple vainqueur Isaka Isaka est allé au tapis dès les quarts de finale. Le combattant de Dosso battu par Aibo Hassan qui accède au dernier carré, place aux demi-finales et à la grande finale ce jeudi.
Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
Ils sont déjà beaucoup à se presser à cette heure-ci devant la basilique Saint-Pierre de Rome dans l'espoir de pouvoir se recueillir devant le cercueil du pape François. Hier, selon le Vatican, ils étaient quasiment 20 000 et cela jusque tard dans la nuit. Les autorités congolaises et la FCM-23, groupe armé soutenu par le Rwanda qui s'est emparé de larges portions des provinces des Kivu, annoncent conjointement leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve, une annonce faite suite à la médiation du Qatar dans ce dossier. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire et ses appels à se rassemblée aujourd'hui, lancée par le PDCI en soutien à Tidjane Thiam après sa radiation des listes électorales. Et puis l'Ukraine, 9 morts et 63 blessés cette nuit à Kiev, après ce qui est déjà considéré comme l'une des pires attaques russes menées contre la capitale ukrainienne. Cela survient quelques heures après l'annonce par Donald Trump d'un accord avec la Russie et les mots très durs du président américain contre son homologue ukrainien, l'accusant de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée par Moscou en 2014. Volodymyr Zelensky en visite à Pretoria aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui, est à Mayotte. On en parle tout de suite. Après une rencontre hier avec son homologue et l'annonce de plusieurs accords entre Paris et Antananarivo, la visite du président français se poursuit donc aujourd'hui à Madagascar. Emmanuel Macron doit notamment participer à la 5e commission de l'océan Indien. On fait le point ce matin sur les principaux enjeux de cette commission et plus largement de cette visite d'Emmanuel Macron sur la Grande Île avec notre invité Richard Randriamandrat, ancien ministre malgache des Affaires étrangères. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Richard Randriamandrat, bonjour.
Bonjour.
La réunion de la commission est marquée aujourd'hui par la présence du chef d'État d'une grande puissance, c'est le français Emmanuel Macron. Est-ce que cette présence peut raviver des querelles territoriales ?
Non, je ne pense pas. Je pense que les chefs d'État ne vont pas soulever des sujets sensibles. Au contraire, il faut chercher à unir les points de vue face notamment aux enjeux géostratégiques. Je pense que les chefs d'État ont tout intérêt à éviter les sujets qui fâchent pour faire face aux défis du développement durable, puisque c'est autour des 17 objectifs de développement durable que la Commission de l'océan Indien, en 1982, a vu le jour. Pas l'oublier. Donc maintenant, je pense que le plan de développement stratégique 2023-2033 va certainement permettre aussi à nos pays d'aller de l'avant.
L'un des sujets qui fâchent à la Commission, c'est le sort de Mayotte. La France voudrait que cette île soit éligible au programme de la Commission de l'océan Indien, mais les Comores s'y opposent puisqu'ils revendiquent ce territoire. Est-ce qu'il y a une solution ?
C'est un sujet qui, à mon sens, relève de la diplomatie bilatérale entre les Comores et la France.
L'un des arguments d'Emmanuel Macron pour Mayotte, c'est de dire que la France contribue déjà à hauteur de 40% au financement de la Commission de l'océan Indien.
Oui, la France est le premier pourvoyeur de financement avec l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que Mayotte doit faire partie ou être toujours à l'écart de la Commission de l'océan Indien. Je pense une fois de plus que ce sujet relève de la diplomatie bilatérale et je me garderai à ce stade d'apporter un commentaire, quel qu'il soit, sur ce point.
Et est-ce que Madagascar pourrait pencher plutôt du côté des Comores ou plutôt de la France dans cette querelle ?
Non, une fois de plus, c'est un sujet, je crois, qui ne relève pas de ce 5e sommet de l'océan Indien.
Autre sujet qui fâche, le sort des îles éparses. Il s'agit de ces 5 îlots sous administration française que Madagascar revendique depuis 1973. Comment voyez-vous l'issue de ce bras de fer ?
Il me semble que l'organisation d'une deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache va se tenir dans les prochains jours. Je crois même que la date du 30 juin a été annoncée. Donc cela augure en fait une période encourageante en termes de discussion et c'est l'occasion de se retrouver autour des aspects sensibles sur le plan juridique, sur le plan historique, qui peut permettre d'asseoir un accord permettant de ne pas fragiliser la situation, par exemple sur le plan de l'équilibre environnemental dans cette zone sensible, sur le plan de l'écosystème, de la protection de la faune et de la flore, de la sécurité maritime. Donc ce n'est pas un sujet qui va diviser la France et Madagascar. Au contraire, il faut saisir cette opportunité pour revoir un peu les copies sur les positions des uns et des autres.
À Paris, certains évoquent la possibilité d'une cogestion entre la France et Madagascar. Est-ce que vous êtes pour un partage de souveraineté ou un transfert de souveraineté ?
Je n'ai pas à m'affirmer sur la nature de l'accord qui va se mettre en place. Il revient au chef d'État de se mettre d'accord sur l'aspect qui va permettre d'avoir une situation gagnant-gagnant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais du moment qu'il y a un accord qui est mutuellement accepté, sans qu'il y ait, disons, d'amertume ou de sentiment de perte de souveraineté, à partir de là, je pense que tout ira pour le mieux. Je pense que l'essentiel, c'est que la France et Madagascar puissent être rassurés sur l'aspect sécuritaire, environnemental. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de perte de souveraineté de part et d'autre. C'est le point le plus important.
Emmanuel Macron a eu ce mot. Je viens à cette commission de l'océan Indien pour y défendre la place de la France dans l'océan Indien. Alors, vu de Madagascar, quel est le meilleur partenaire ? La France, la Russie ou la Chine ?
Sur ce point, Madagascar a choisi de ne pas choisir entre privilégier tel ou tel partenariat. Madagascar, depuis des années, depuis le président Ratsirek, a choisi une position d'ouverture.
Et quand Emmanuel Macron rappelle qu'il y a dans la zone Indo-Pacifique quelques 8000 militaires français, ça vous convient ou ça vous gêne ?
Non, cela ne porte pas, à mon avis, de menace particulière. D'ailleurs, le grand chambardement maintenant sur le plan géostratégique fait en sorte qu'il faut bien faire attention sur les éventuels risques de déstabilisation. Donc, non, Moi, je ne m'en offusque pas pour autant.
Richard Randriamanrat, merci.
L'ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar entretient avec Christophe Boisbouvier. Je vous signale que nos contenus sur la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien sont à retrouver sur notre site RFI.fr. Par exemple, cet éclairage sur les enjeux stratégiques du canal du Mozambique entretient avec Jean-Marc Balanci, expert de la région, à retrouver sur RFI.fr. Le canal du Mozambique, élément clé dans le trafic maritime international et notamment depuis le début des tensions en mer Rouge, comprenez les attaques de rebelles houthis du Yémen en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Et ces tensions, eh bien, elles ont aussi des conséquences sur le marché des avocats kényans. On en parle ce matin dans notre chronique Matières Premières. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Marie-Pierre, concrètement, vous nous dites qu'à cette période, normalement, les avocats kényans prennent le relais sur la production méditerranéenne pour alimenter le marché européen, mais avec ces tensions en mer Rouge, les habitudes se compliquent un peu.
Effectivement, oui, car les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les exportateurs kényans. La crise en mer Rouge les oblige, vous l'avez dit, depuis l'année dernière à contourner le cap de Bonne-Espérance pour atteindre l'Europe, un voyage qui dure à minima une trentaine de jours et qui pèse sur la qualité des fruits. L'année dernière, les avocats kényans ont quand même réussi à se frayer un chemin et à occuper la fenêtre de tir qui est la leur sur le marché européen, c'est-à-dire arriver entre la fin de la saison des pays méditerranéens et le début de celle du Pérou. Mais la production péruvienne qui arrive s'annonce record contrairement à 2024. L'horizon qui était plutôt dégagé l'année dernière et avait permis la commercialisation des avocats kényans s'annonce beaucoup plus bouché cette année.
Dès que l'origine péruvienne déferle dans les commerces européens, les avocats kényans se retirent, c'est la règle.
Et oui, c'est la dure loi du commerce et cet effacement de l'origine kényane que l'on constate début juin en général est d'autant plus marqué que les quantités qui arrivent du Pérou sont grandes. L'avocat péruvien est difficile à concurrencer, il est aussi beaucoup plus standard car il a poussé dans des vergers plus modernes et plus productifs. Ses coûts de production sont plus bas et les prix très compétitifs. Chaque année, on l'observe à partir de fin mai ou début juin, quand la vague péruvienne arrive, les prix s'effondrent et sont quasiment même divisés par deux dans les pays européens.
Et alors Marie-Pierre, est-ce qu'il y a d'autres débouchés pour l'avocat kényan ?
Alors les exportateurs ont réussi, oui, à prendre quelque part de marché en Asie et se reportent autant qu'ils peuvent vers les marchés du Golfe. L'autre débouché qui a le vent en poupe, c'est la transformation d'avocats en huile. Elle permet en particulier d'écouler la production qui n'a pas la qualité requise pour être exportée en frais. En un an, on compte une dizaine de projets de sites d'extraction supplémentaires. Plusieurs d'entre eux sont entrés en activité et s'ajoutent à la vingtaine d'unités déjà existantes au Kenya.
Merci Marie-Pierre Olfan. Autre matière première dont on parle ce matin sur RFI, c'est le sujet de notre grand reportage du jour, le cacao et la saison qui démarre tout doucement en Côte d'Ivoire. L'or brun du premier producteur mondial fait l'objet d'exportations massives mais aussi de contrebande. RFI s'est rendu pour ce grand reportage dans deux départements de l'extrême ouest ivoirien. Par sa proximité avec la Guinée, avec le Libéria, la zone est considérée comme l'un des carrefours de l'exportation illégale. Selon les chiffres de l'agence Reuters, 50 000 tonnes de cacao se sont volatilisés au dernier trimestre de 2024, au plus haut du cours mondial. La contrebande est un crime en Côte d'Ivoire, mais les moyens d'échapper au contrôle sont très nombreux. Sur les pistes du trafic de cacao, c'est un grand reportage de Benoît Almeras. Tout de suite un extrait.
Ce serait l'une des plaques tournantes de la contrebande de cacao. Bienvenue à Danané, son avenue principale est tirée le long de la route A8. 50 km plus loin, il y a la Guinée forestière et Monrovia, la capitale du Libéria voisin, est plus proche que la lointaine Abidjan à plus de 10 heures de route. Dans cette ville frontière, les coopératives de cacao et leurs entrepôts ont pignon sur rue, comme souvent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le véhicule roi, c'est la moto ici. À moins de 500 euros, n'importe qui peut acheter une Raojue ou une Sanya, des modèles chinois souvent importés de Guinée. Des deux roues bon marché, indispensables pour rouler loin du bitume.
Depuis après la guerre, bon, toutes les voies ne sont pas praticables. Voilà, donc on est obligé d'avoir les motos pour essayer de se déplacer. Voilà.
Ça vous permet d'aller jusqu'où en fait avec la moto? Vous allez au Libéria par exemple?
Oui, nous, on va au Libéria jusqu'à la frontière. Souvent même on va jusqu'à dans la capitale pour aller. Oui, oui.
Dans la capitale, à Monrovia?
Oui, à Monrovia, oui.
Ok, c'est pas si loin que ça?
Non, c'est pas si loin, c'est pas si loin. Même aujourd'hui, si vous voulez, on peut aller. Sans problème.
Bon, j'ai pas de visa.
Mais il n'y a pas problème de visa. Oui, mais. Mais avec nous, souvent, il n'y a pas problème de visa. Voilà. Parce que nous sommes les enfants de la frontière. Nous sommes la frontière de Libéria et la Guinée. Voilà.
Il y a beaucoup de gens là comme vous qui font la traversée là comme ça tranquillement.
Oui, oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup.
Ces petites cylindrées, elles sont surtout plus discrètes que les camions. À la sortie de Danané, une petite dizaine de poids lourds sont garés sur le bas-côté, juste au niveau du poste de douane. Depuis plusieurs mois, les contrôles se sont intensifiés sur la 8. Mohamed transporte une cargaison de noix de coco vers la ville guinéenne de Siguiri. Son 10 tonnes est bloqué depuis plusieurs jours.
Il n'a pas encore vérifié d'abord. Moi, je crois qu'il pensait que c'est le cacao qu'il y a dedans.
Il y a des contrôles qui sont plus stricts en ce moment ?
Oui, il y a trop de contrôles. Contrôle pour le trafic de cacao pour en vendre en Guinée. Il dit, vraiment, nous, on est fatigués comme ça. On n'a pas cacao, rien. On est garé, personne n'est venu pour nous demander il y a quel problème. On a appelé Danané, ils ont appelé à Man. Man dit, c'est le problème de... C'est Abidjan qui a donné ordre pour garer les camions, tous les camions.
Ce grand reportage à écouter en intégralité sur RFI à 19h40, temps universel, et à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
À 7 mois de la présidentielle en Centrafrique, le pouvoir veut lancer un dialogue politique avec l'opposition qui est vent debout contre une éventuelle troisième candidature du président. Que vous inspire cette initiative ? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Climat, biosphère, biodiversité, comment aider à comprendre la complexité de toutes ces interactions ? En vulgarisant la science, répond notre invité Nathanaël Wallenhorst, qui vient de lancer la collection Système Terre chez Actes Sud.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.